le millefeuille revisité. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio en compagnie de Christine. C'est donc la rentrée pour le millefeuille et c'est aussi la deuxième saison pour ces escapades en littérature. Alors, comme toute rentrée qui se respecte, les livres sont à l'honneur bien sûr, et qui dit livre dit lecture, voire apprentissage de la lecture pour les plus jeunes. Je vous propose donc d'évoquer un roman qui nous parle de l'apprentissage de la lecture, qui nous parle aussi de la forêt, et quelle forêt, ce gigantesque poumon vert que représente l'Amazonie, l'Amazonie où son auteur a vécu chez les Indiens Shuar. Cet auteur est chilien, chilien avant tout, aurait-il dit, mais pas seulement, nous le verrons. J'ai donc nommé Luis Sepúlveda et son roman « Le vieux qui lisait des romans d'amour ».
Le vieux qui lisait des romans d'amour s'appelle Antonio José Bolívar. Alors j'aimerais que vous nous racontiez un peu qui est ce vieux et comment il s'est mis à lire des romans d'amour.
Ce vieux, c'est un ensemble de personnages que j'ai pu observer et connaître pendant que j'ai travaillé pour l'UNESCO. J'ai vécu 6 mois dans la forêt amazonienne. Ce personnage est composé de plusieurs vieux que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Chacun m'a donné des détails qui m'a permis de construire un ensemble, donc ce personnage.
Comment il se met à lire des romans d'amour? Parce que ça, c'est intéressant dans votre roman.
Le vieux est un lecteur frustré au début. Il découvre assez tardivement qu'il sait lire. Et en Amérique latine, les romans d'amour ont une très grande importance. En effet, l'essentiel de notre littérature est une littérature d'amour. Nos principaux poètes ont été poètes d'amour, Neruda ou Amado Negro, pour en citer quelques-uns.
C'était donc Luis Sepúlveda que nous venons d'entendre lors d'une interview de la radio-télévision suisse réalisée en 1992 à la sortie justement du roman « Le vieux qui lisait des romans d'amour ». Mais sans plus attendre, je vous propose une mise en bouche pour démarrer avec le début de cette histoire. Le ciel était une panse d'âne gonflée qui pendait très bas, menaçante, au-dessus des têtes. Le vent tiède et poisseux balayait les feuilles éparses et secouait violemment les bananiers rachitiques qui ornaient la façade de la mairie. Les quelques habitants d'El Idilio, auxquels s'était joint une poignée d'aventuriers venus des environs, attendaient sur le quai leur tour de s'asseoir dans le fauteuil mobile du dentiste, le docteur Rubicondo Luachamin, qui pratiquait une étrange anesthésie verbale pour atténuer les douleurs de ses clients. « Ça te fait mal ?» questionnait-il. Agrippés au bras du fauteuil, les patients, en guise de réponse, ouvraient des yeux immenses et transpiraient à grosses gouttes. Certains tentaient de retirer de leur bouche les mains insolentes du dentiste afin de pouvoir lui répondre par une grossièreté bien sentie, mais il se heurtait à ses muscles puissants et à sa voix autoritaire. « Tiens-toi tranquille, bordel. Bats les pattes. Je sais bien que ça te fait mal. Mais à qui la faute, hein? À moi? Non. » Au gouvernement, enfonce-toi bien ça dans le crâne. C'est la faute au gouvernement si tu as les dents pourries et si tu as mal. La faute au gouvernement. Les malheureux n'avaient plus qu'à se résigner en fermant les yeux ou en dodelinant de la tête. Le docteur Luachamin haïssait le gouvernement. N'importe quel gouvernement. Tous les gouvernements. Fils illégitime d'un immigrant ibérique, il tenait de lui une répulsion profonde pour tout ce qui s'apparentait à l'autorité. Mais les raisons exactes de sa haine s'était perdu au hasard de ses frasques de jeunesse, et ses diatribes anarchisantes n'étaient plus qu'une sorte de verrue morale qui le rendait sympathique. Il vociférait contre les gouvernements successifs de la même manière que contre les gringos qui venaient parfois des installations pétrolières du Coca, étrangers impudiques qui photographiaient sans autorisation les bouches ouvertes de ses patients. Sa situation sur l'étagère. Sur mon étagère, le vieux qui lisait des romans d'amour se trouve entre les livres de Bernard Schlink et ceux de Soseki. Alors, est-ce que Luis Sepúlveda aurait apprécié ce compagnonnage d'étagère ? Pour ce qui est de Bernard Schlink, auteur allemand du roman Le Liseur, sûrement qu'ils auraient eu des choses à se dire. Luis Sepúlveda a vécu en Allemagne et, alors qu'il visitait le camp de Bergen-Belsen, il a été marqué par ces mots d'un anonyme inscrit sur les murs du camp. J'étais ici et personne ne racontera mon histoire. Il a juré à celle ou celui qui les avait écrits qu'il raconterait son histoire, car donner la parole aux sans-voix était sa raison d'écrire. Pour Soseki, Luis Sepúlveda aurait sans doute aussi apprécié sa compagnie, lui qui était sensible à la poésie des petites choses, notamment celle de l'auteur japonais Kenzaburo Oe, qu'il admirait. Mais c'est Pablo Neruda qui contribua à ses premiers émois en poésie avec 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée, découverts à la suite d'une déception amoureuse. En poésie, il aimait aussi Don Nica, poète ou anti-poète chilien, de son vrai nom Nicanor Parra, le frère de la chanteuse, Violeta Parra. Et celui qu'il définira comme le poète avec un grand P, ce sera son ami et maître, Tonino Guerra, auteur de scénarios de films emblématiques comme Amarcord ou Blow Up. Outre la poésie, dans les auteurs qu'il affectionne, on peut citer Zola pour son engagement, sa volonté de défendre la cause ouvrière et les plus faibles, pour son J'accuse et pour Germinal. L'auteur chilien Baldomero Lillo, pour les mêmes raisons, et plus spécifiquement ses recueils Subterra et Subsolé. Le médecin, diplomate et auteur brésilien Guimarães Rosa, pour son unique roman Grande Sertão, paru en 1956, une épopée magistrale dont le style a chamboulé certains codes à l'époque. Mais aussi on citera les auteurs qui ont dénoncé les injustices sociales et l'apartheid, comme Doris Lessing ou Henning Mankell qui, lui, a abordé ces thèmes par le biais du roman noir. Et sur le thème du colonialisme et de la pauvreté en Afrique noire, c'est l'auteur polonais Richard Kapuscinski pour son roman « Ébène ». Mais il ne faudrait pas oublier de citer José Saramago, un auteur portugais, prix Nobel de littérature en 1998, et que Luis Sepúlveda admirait en tant qu'homme de lettres, mais aussi en tant qu'homme, tout simplement. Revenons à son auteur, Luis Sepúlveda. Il est né en 1949 à Ovalle, au Chili. De sa vie et de son œuvre, il dira qu'elles sont proches du roman d'Haruki Murakami, Chronique de l'oiseau à ressort. Pour lui, seul un oiseau fou a pu avoir l'idée de le faire naître à cet endroit. Dans ce pays, frappé par des tremblements de terre et des tsunamis, de près de 5000 km de long, qui commence par un désert et qui finit dans l'Antarctique. À l'image de cet oiseau fou, Luis Sepúlveda, qui nous a quittés en 2020, aura eu en effet une existence mouvementée entre exil et voyage, entre Amérique du Sud et Europe, puisqu'il vivra plusieurs années en Allemagne, en France et en Espagne. Plusieurs mots résument à eux seuls l'essence du parcours de Luis Sepúlveda. Le premier, Chili, puisque ce pays l'a vu naître et grandir. pays qui lui a inculqué, dira-t-il, la culture de la solidarité et celle de l'humour pour résister aux malheurs et aux catastrophes. Chili, terre d'enfance, terre d'engagement politique dès l'adolescence, mais aussi terre de souffrance avec la dictature de Pinochet, où il connaîtra la prison, la torture et la disparition d'amis. Ce régime lui infligera une peine de prison de 28 ans. Il restera 2 ans et demi dans les geôles des opposants politiques et sa peine sera finalement commuée en années d'exil grâce à l'intervention d'Amnesty International. Déchu de sa nationalité, il écrira « Je suis un Chilien sans un document qui l'atteste, mais peu m'importe car, où que je sois, il me suffit de regarder le sud pour sentir sur mon visage l'air austral qui, dans ma mémoire têtue, a toujours l'odeur de la solidarité, de la fraternité et de la volonté de construire un pays meilleur. » Engagement, pour définir sa personnalité et ses combats, que ce soit le soutien à Allende et la lutte contre la dictature de Pinochet, la défense des sans-voix, mineurs ou laissés pour compte de la société. Engagement écologique également, avec la défense de l'Amazonie, celle des terres des peuples mapuchés et sa participation aux actions de Greenpeace dans les années 80. Ses engagements, on les retrouve aussi dans les 4 films qu'il a réalisés, mais son œuvre cinématographique n'aura pas le même retentissement que ses écrits. Sud. Ce mot, on le retrouve souvent dans son œuvre. Il dira d'ailleurs « Je suis du Sud », puis « Je suis le Sud », symbole de son combat pour le droit de vivre, pour la dignité de ces femmes et de ces hommes du Chili, du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay, mais aussi d'Afrique, main-d'œuvre à bas coût, immigrés, souvent ignorés, ces gens de peu ou, comme l'aurait dit Pierre Michon, ces vies minuscules. Car si Luis Sepúlveda est contraint à l'exil et doit quitter le Chili en 1977, il va demeurer plusieurs années encore dans cette Amérique du Sud, voyageant au Pérou, en Colombie et en Équateur, où il fondera une troupe de théâtre. Il travaillera pour l'UNESCO et passera ainsi plusieurs mois chez les Indiens Shuar d'Amazonie, avant de poursuivre sa route vers le Nicaragua, où il rejoindra la cause des sandinistes. Et enfin, football. Luis Sepúlveda a été dans sa jeunesse un passionné de football, mais cette passion sera mise à mal à l'adolescence. C'est ce que raconte Un doute et une certitude, un récit paru dans Ingrédients pour une vie de passion formidable. Ce texte sera également publié sous le titre J'avoue que j'étais buteur dans le premier numéro de la revue De sport de janvier 2013. Sepúlveda raconte comment il a abandonné le football pour la poésie à la suite de ses premières déceptions amoureuses. Il dira plus tard « J'ai un gros doute et une grande certitude. Pour le doute, je me demande si la littérature a gagné quelque chose avec mon engagement dans la parole écrite. Et pour la certitude, je suis sûr que le football chilien a perdu un grand avant-centre à cause de la littérature. » C'est l'occasion pour moi de vous conseiller vivement de lire « Ingrédients pour une vie de passion formidable » où Luis Sepúlveda partage ses convictions politiques, ses coups de colère, ses coups de gueule, son amour du Chili, son combat pour une littérature par et pour les hommes. Il évoque les amitiés, les rencontres qui l'ont nourri, mais aussi des tranches de vie, des anecdotes comme celle-ci. Alors qu'il déjeunait dans un restaurant de Valparaiso avec Gabriel Garcia Marquez, un admirateur dira à ce dernier qu'il est tout le portrait de Garcia Marquez. Admirateur un peu insistant qui reviendra lui dire qu'il devrait participer à un concours organisé par la télé, chercher le sosie, car il gagnerait sûrement. Admirateur qui finalement lui lâchera en quittant le restaurant. La ressemblance est très grande, on ne peut pas le nier, mais en y regardant bien, tu es plus vieux et plus moche que Garcia Marquez. » Et depuis ce jour, Garcia Marquez demandera à Sepúlveda à chacune de leurs rencontres: « Luco, tu te rappelles la fois où j'ai été plus vieux et plus moche que moi-même ?»
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close, qui donc pouvaient être ces gosses, cette invasion de petites filles? Que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille? J'ai vite compris à leur manière, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros ou des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent d'un jeu sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me prennent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. Depuis, dès que mes yeux se posent entre les lignes, entre les pages, mêmes effets, mêmes causes, je fais surgir les personnages. Pour mon malheur, je lis beaucoup et c'est risqué, je le sais bien. Mes hôtes peuvent aussi être fous, ou dangereux, ou assassins. J'ai fui devant des créatures, repoussé quelques décadents, échappé de peu aux morsures d'un vieux roumain extravagant. J'évite de lire tant qu'à faire les dépravés, les malades, les histoires de serial killers, les œuvres du marquis de Sade. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros ou des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent linge sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me prennent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. N'importe quoi qui est imprimé me saute aux yeux littéralement, et l'histoire devient insensée car je ne lis pas que des romans. Ainsi j'ai subi les caprices d'un Apollon de Prospectus. J'ai même rencontré les trois Suisses et le caissier des emprunts russes. Un article du code pénal poilu comme une moisissure s'est comporté comme un vandale se soulageant dans mes chaussures. Ce démon qui vient de filer, ça ne serait pas, je me le demande, un genre de verbe irrégulier sorti d'une grammaire allemande. Cesser de lire pour qu'il cesse de me hanter, brûler mes livres pour finir dans un glorieux auto-da-fé. Mais j'aime trop comme un opium ce rendez-vous de chaque nuit, ces mots qui deviennent des hommes, loin de ce monde qui m'ennuie. Malgré les monstres et les bizarres, je me suis fait quelques amis. Alors j'ouvre une page au hasard d'un livre usé que je relis. Puis j'attends, je dois l'avouer, au coin d'un chapitre émouvant, que vienne d'un prince ou d'une fée, un amour comme dans les romans, comme dans les romans. À voix basse, qu'il me fasse oublier tous mes chagrins, qu'il susurre tout murmure des toujours et des demain, qu'il m'embrasse, qu'il m'enlace. Thank you.
le vieux qui lisait des romans d'amour, est le premier roman de Luis Sepúlveda. Il est paru en 1992 en France, chez Métallier, et a été traduit en plus de 30 langues, ce qui lui a valu une renommée internationale. Ce roman court, d'à peine plus de 100 pages, a reçu de nombreux prix, allant du prix des Relais H à celui de France Culture. C'est dire le large public qui l'a plébiscité. Cette histoire témoigne déjà de son engagement auprès des peuples d'Amazonie dont l'existence est menacée par la spoliation de leurs terres. Sepúlveda dédiera d'ailleurs le prix Tigre Juan qu'il a reçu pour ce livre à son ami Chico Mendes, défenseur de la forêt amazonienne, assassiné en 1988 en raison de son combat. Le héros du roman, Antonio José Bolívar, sorte de nomade forcé, vit depuis 40 ans au sein de la forêt amazonienne dans une misérable cabane à proximité du village d'El Idilio, qui n'a rien d'idyllique. Sa vie est partagée entre la vie dans la forêt et ses souvenirs. Et s'il a vécu quelque temps avec les Indiens Chouars, ce héros a aussi fait l'apprentissage de la lecture. Mais il y a bien peu de livres dans cet endroit du monde. L'histoire va donc commencer avec la découverte du cadavre d'un gringo, un chasseur blanc, et les soupçons vont se porter sur les Indiens Chouars, mais le vieil homme sait qu'il n'en est rien et que le coupable est un fauve de très très belle taille. On lit donc ce roman comme une enquête policière, un roman d'aventure, on y croise des personnages hauts en couleur, pour certains grotesques, pour d'autres plus attachants, l'humour est présent, ainsi que le suspense, avec la présence de ce fauve qui a décidé d'en découdre avec les hommes, et on découvrira au fil de récit pourquoi. Comment j'ai découvert ce roman ? Eh bien, je l'ai tout d'abord découvert dans le cadre d'une lecture à voix haute, une lecture autour du thème de la lecture et des livres. Cette découverte m'a donc entraînée vers l'intégralité du roman et aussi vers d'autres textes de Luis Sepúlveda, dont un de mes préférés reste l'histoire d'une mouette et d'un chat qui lui a appris à voler, un roman jeunesse qu'il a écrit lorsqu'il vivait à Hambourg et qui a également connu un énorme succès international. J'ai toujours grand plaisir à partager cette histoire de mouette et de chat avec les plus jeunes. Découvrons à présent un deuxième extrait du vieux qui lisait des romans d'amour, alors que notre héros, Antonio José Bolívar, vient d'arriver à la ville d'El Dorado, accompagné du dentiste, pour l'aider à trouver des livres qui vont répondre à ses goûts. Et c'est Antoine qui nous propose d'écouter ce deuxième extrait.
Le dentiste le présenta à la seule personne capable de l'aider, l'institutrice. Il obtint également pour le vieux la permission de dormir dans l'enceinte de l'école, une grande habitation de bambou pourvue d'une cuisine, en échange de son aide pour les travaux domestiques et la confection d'un herbier. L'institutrice lui montra sa bibliothèque. Il fut ému de voir tant de livres rassemblés. L'institutrice possédait une cinquantaine de volumes rangés sur des étagères et il éprouva un plaisir indicible à les passer en revue en s'aidant de la loupe qu'il venait d'acquérir. 5 mois durant, il put ainsi former et polir ses goûts de lecteur tout en faisant alterner les doutes et les réponses. En parcourant les textes de géométrie, il se demanda si cela valait vraiment la peine de savoir lire, et il ne conserva de ses livres qu'une seule longue phrase qu'il sortait dans les moments de mauvaise humeur. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Phrase qui, par la suite, devait produire un effet de stupeur chez les habitants d'El Idilio, qui la recevaient comme une charade absurde ou une franche obscénité. Les textes d'histoire lui semblèrent un chapelet de mensonges. Était-il possible que ces petits messieurs pâles, avec leurs gants jusqu'aux coudes et leurs culottes collantes de funambules, aient été capables de gagner des batailles ? Il lui suffisait de voir leurs boucles soigneusement frisées, flottant au vent, pour comprendre que ces gens-là étaient incapables de tuer une mouche. Ce fut ainsi que les épisodes historiques se trouvèrent exclus de ses goûts de lecture. Edmondo de Amicis et son cœur occupèrent pratiquement la moitié de son séjour à Eldorado. Là, il était à son affaire. C'était un livre qui lui collait aux mains et aux yeux, qui lui faisait oublier la fatigue pour continuer à lire, encore et toujours, jusqu'à ce qu'un soir il finisse par se dire qu'il n'était pas possible qu'un seul corps endure tant de souffrances et contienne tant de malchance. Il fallait être vraiment un salaud pour prendre plaisir au malheur d'un pauvre garçon tel que le petit Lombard. Et c'est alors, après avoir cherché dans toute la bibliothèque, qu'il trouva enfin ce qui lui convenait vraiment. Le rosaire de Florence Barclay contenait de l'amour, encore de l'amour, toujours de l'amour. Les personnages souffraient et mêlaient félicité et malheur avec tant de beauté que sa loupe en était trempée de larmes.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y ay, sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño. Y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en
résonance. Comme résonance pour moi avec ce roman, j'aurais pu choisir une autre voix du Chili, celle de la chanteuse Violeta Parra que nous venons d'écouter. Elle qui a connu également une reconnaissance internationale, mais qui a malheureusement fini sa vie dans l'oubli et la misère. J'ai préféré la résonance avec l'œuvre du photographe chilien Sergio Larraine. Ce grand photographe qui a eu une carrière internationale, qui a passé 3 ans à l'agence Magnum, qui a réalisé des reportages pour de nombreux journaux, mais qui s'est ensuite retiré du monde de la presse pour se consacrer au yoga, à la méditation et au dessin, ayant choisi dans la dernière partie de sa vie de vivre en ermite et de sauver la planète. Sergio Larraine a publié peu de livres, mais celui à retenir, c'est Valparaiso. Valparaiso, cette ville qu'il a photographiée pendant 40 ans, cette ville vers laquelle il reviendra à son retour au Chili. Il la photographiera sous tous ses angles, ses rues, ses ruelles, ses pavés, ses escaliers, bien sûr, ses bars, ses prostituées, sa nuit, ses habitants, ses murs délabrés, son port, ses chiens errants et ses chats, mais aussi des choses plus ténues, un rideau de dentelle à une fenêtre, une feuille morte échouée là, une plante verte, une herbe folle, les gouttes d'eau accrochées à une rambarde. Outre ces photos, Valparaiso comprend des écrits de Sergio Larraine, des dessins, des lettres adressées à Henri Cartier-Bresson, son ami et modèle, ainsi qu'à Agnès Cyr, directrice de la Fondation Cartier-Bresson, qui a œuvré pour la publication de l'ouvrage. Un texte de Pablo Neruda, Le Vagabond de Valparaiso, spécialement écrit pour Sergio Larraine. Neruda qui disait « Si nous parcourons tous les escaliers de Valparaiso, nous aurons fait le tour du monde. » On y découvre aussi, étonnamment, la reproduction en noir et blanc d'une toile d'Hopper avec en vis-à-vis une note manuscrite « L'art est une approche de l'état de Satori ». Dans une lettre du 6 juillet 1991 à Agnès Cyr, il écrit à propos de la photographie « Ce que j'aime à propos du métier, sa qualité, c'est que ça procure de la joie et l'envie de faire du bien aux autres, tout le contraire de ce qu'impliquent les commandes ou ce qu'on fait pour le prestige. » Et il évoque Joseph Kudelka, autre grand photographe qui construit sa carrière tout en dormant dans des sacs de couchage sans rien dépenser. Ce livre Valparaiso est en fait la deuxième version de Valparaiso, un premier ouvrage paru en 1991 aux éditions Azan. On pourrait dire que cette version de 2016 est une version augmentée du premier, puisqu'elle contient 120 photos alors que l'original n'en proposait que 38. Une version qui reflète au plus près la personnalité de Sergio Larraine et toute la palette de son art, ses réflexions sur la ville, sur la vie et ses poèmes en images qu'il appelait « Satori ». Alors comment évoquer oralement la photographie de Sergio Larraine? Peut-être en choisir une image emblématique, celle qui vous parlera peut-être, celle du passage Bavestrello, un cliché réalisé à Valparaiso en 1952. Cette photo, c'est celle de deux fillettes de dos, descendant un escalier dans un passage entouré de hauts murs, sorte de cage d'escalier sans débouché apparent du fait du mur du fond. Deux fillettes comme des jumelles, coupe de cheveux au carré, robe cintrée à la taille par un ruban, l'une déjà dans l'escalier qui descend en pleine lumière et l'autre au premier plan dans l'ombre. On pourrait croire un moment à une fillette en plein soleil et à son ombre derrière, à son double. Aujourd'hui, on pourrait croire à un montage pour cette étonnante ressemblance, si ce n'était, à y regarder plus attentivement, cette légère différence pour la fillette au premier plan dans l'ombre. Une petite bouteille en verre qu'elle tient dans sa main gauche, juste par le goulot. Avec ses deux fillettes dans ce décor géométrique fait de murs, de lignes, d'ombres et de lumière, on pense bien sûr à Henri Cartier-Bresson, qu'il admirait. Alors si vous souhaitez découvrir l'œuvre de Sergio Larraine, sautez sur la première occasion d'exposition, ou alors feuilletez ce livre, Valparaiso, paru en 2016 aux éditions Xavier Barral. Une citation de l'auteur Luis Sepúlveda. Je ne pourrais m'attaquer à la littérature, à l'écriture, sans la conscience d'être la mémoire de mon pays, de mon continent et de l'humanité. La forêt et la main de l'homme. Après l'évocation du roman de Luis Sepúlveda, on est en plein dedans, avec la forêt amazonienne et les menaces que l'homme fait peser sur elle. Il serait peut-être utile de rappeler encore et encore à certains d'entre nous, humains, que si l'homme ne peut pas vivre sur Terre sans les arbres, en revanche, les arbres peuvent allègrement se passer de nous. Et ils s'emportent même mieux sur le plan de la biodiversité. La forêt n'a en effet pas besoin de la main de l'homme pour évoluer, pour se régénérer. C'est ce qui caractérise la forêt primaire, nous en avons déjà parlé, avec, à son opposé, la forêt plantée par l'homme dans le cadre d'une sylviculture intensive. Une même espèce d'arbre, plantée tous au même moment, et qui auront donc le même âge et pourront être décimés plus facilement par une maladie ou par le dérèglement climatique. Une forêt diversifiée, plus hétérogène, avec des plantations de différentes tailles, est plus adaptée pour résister au changement climatique. Par ailleurs, selon Annick Schnitzler, experte en écologie forestière, il faudrait modifier notre perception de l'animal dans la forêt, ne plus le considérer soit comme un nuisible, soit comme gibier, et accepter les grands prédateurs qui ont un rôle de régulation de la faune herbivore indispensable. En somme, on a rebouclé avec le vieux qui lisait des romans d'amour. À bon entendeur, salut! Merci à Antoine pour sa contribution et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Millefeuille revisité, toujours sur l'autre radio.